cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Bonjour David Lampel.
Bonjour Marc.
Alors vous publiez chez Naxos un album baptisé Chamber Music, donc musique de chambre, son nom l'indique, que vous avez composé puisque vous êtes compositeur. En général, on a toujours tendance chez Cobuzz, quand on a une rencontre, quand on évoque la musique dite classique, rencontrer plutôt des interprètes, les compositeurs n'étant pas à portée de main. Vous êtes un compositeur. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait vous rencontrer. Donc cet album est interprété par divers musiciens, le Quatuor Parisi, également Sébastien Riesler, Miguel Strosser, Régis Pasquier, Henri de Marquette, les solistes de chambre d'Uppsala, je crois que j'oublie personne peut-être, non ? Voilà, alors, donc vous êtes compositeur, vous êtes pédagogue aussi, vous avez écrit un ouvrage d'un manuel pratique d'harmonie tonale, vous êtes aussi, je crois, le créateur d'un festival qui se déroule chaque année en Suède, puisque vous êtes né à Stockholm.
Je suis né à Stockholm, il y a de cela quelques années, 50 ans exactement, puisque je fête mes 50 ans cette année, ça fait 40 ans de carrière et de carrière de musique en tout cas, et mes 50 ans. Effectivement, je m'occupe de ce festival. C'est grâce à ce festival en partie que j'ai pu enregistrer ce disque, puisque la plupart des artistes sur le disque ont été présents au festival et ont joué les pièces qui sont sur le disque au moment du festival.
Donc toutes ces activités tournent autour de la musique. Alors sans vous demander de nous raconter votre vie, quel est votre parcours ? Je crois que vous avez une formation de pianiste.
Je suis de formation pianiste au départ. J'ai commencé à étudier la musique en Suède quand j'étais très petit, puisque j'ai quitté la Suède quand j'avais 13 ans. C'est pour ça que mon français est à peu près correct.
On va dire.
On va dire correct. J'ai vécu en Suisse pendant longtemps et là j'ai fait des études de musique au conservatoire. Et ensuite j'ai poursuivi mes études en France. En arrivant en France, j'avais 28 ans. J'ai encore continué à étudier en France et ensuite je suis passé de l'autre côté de la
problématique de la musique, la composition.
De l'autre côté, je voulais dire de l'autre côté de la barrière. Je suis passé du côté de l'enseignement et j'ai commencé donc à enseigner l'écriture, maintenant l'orchestration également dans les conservatoires à Paris, en dehors de Paris. Et j'ai écrit ce traité il y a quelques années qui fonctionne très bien et qui est un traité donc d'harmonie tonale. Qui manquait un peu en France à l'époque. Je trouvais qu'il n'y avait pas de traité concis et précis et clair. Et donc voilà, ça c'est une de mes activités en dehors de la composition.
La composition, comment on tombe dedans, j'allais dire, parce qu'il y a quand même une problématique bien à part.
Ben, c'est ce que je vous disais, c'est réellement ce qui s'est passé, c'est-à-dire 40 ans de musique, ça veut dire qu'il y a 10 ans, j'ai décidé que je serais compositeur.
J'ai décidé, c'était, vous aviez une révélation, qu'est-ce qui vous a attiré
Chez moi, ça a vraiment été une révélation. J'écoutais, jusque-là, j'écoutais comme tous les gamins, les Rolling Stones, toute la musique qu'on écoute quand on a 7, 8, 9 ans, rien dans le classique. Ma mère avait quelques disques que j'écoutais de temps en temps. Et un jour, j'ai commencé le piano, en fait. À ce moment-là, j'ai eu une révélation, vraiment vers 10 ans. J'ai commencé tout d'un coup à écouter de la musique.
Est-ce que c'était lié à une œuvre ou
un
compositeur en plus qu'un autre?
Pas spécialement, parce que je me souviens que c'était des disques où il y avait énorme. Ça couvrait un peu toutes les époques. J'écoutais beaucoup Bach au début, ça a été le révélateur un peu de musicalement pour moi. Mais aussi Stravinsky, Chopin, enfin ça a très vite été un peu toutes les époques, ça balayait un peu toutes les époques. Mais ça a été foudroyant et j'ai pris des cours avec un monsieur qui était paysan en fait. De métier, agriculteur, et qui donnait des cours dans les écoles en Suède, c'était au nord de la Suède. Donc c'est assez épique comme début. Il avait des gros doigts, il avait du mal lui-même à jouer. Mais il m'a transmis une espèce d'amour pour la musique qui m'a totalement transcendé. Au bout de 6 mois que j'avais commencé à faire du piano, je me suis dit, je veux composer, je veux écrire de la musique. Rien dans la famille présupposait que je puisse choisir la musique, en fait, puisque ma mère était actrice de cinéma et mon père pilote, donc rien à voir. Enfin, ma mère était un petit peu dans un métier artistique quand même, mais disons qu'elle n'avait pas de prédisposition directe, quoi.
Vos premières compositions ressemblaient à quoi au début ?
Eh ben, mes premières compositions, j'imitais tout ce que j'entendais, tout ce que je jouais, je l'imitais. Ça donnait des choses plus ou moins réussies, j'écrivais, j'ai tout de suite commencé à écrire. Je me souviens qu'au tout au début, je ne savais pas qu'il y avait 5 lignes dans un système de musique et j'écrivais sur 4 lignes, comme on faisait au Moyen-Âge, quoi. Et je mettais les notes là-dessus et j'appelais ça un concerto, le concerto numéro, machin, etc. J'écrivais aussi mes propres biographies. Ça, je me souviens qu'à 10 ans, j'écrivais mes biographies en disant il a composé un concerto, etc. Enfin, cette semaine, sa production. Je me voyais tout de suite compositeur, quoi.
L'enseignement de transmettre. Il y a eu aussi une révélation. Quelle a été la volonté de cela ? Vous avez parlé d'un manque par rapport à votre traité, mais d'où vient également quelle est la source, l'origine de cette volonté ?
On dit souvent que la meilleure manière d'apprendre quelque chose est de l'enseigner. Je suis assez de cet avis. C'est-à-dire que quand on veut vraiment préciser des choses dans sa tête, d'essayer de l'expliquer aux autres, ça aide. Et j'ai toujours pensé que l'enseignement était une manière de se forcer aussi à apprendre soi-même. Ça a toujours été le cas pour moi. À chaque fois que je m'intéressais à quelque chose musicalement, quelque chose que j'avais envie d'approfondir, je me suis dit, je donne un cours. Je vais ouvrir un cours de... Alors ça a été l'histoire de la musique, ça a été... maintenant c'est l'orchestration qui m'intéresse énormément, l'écriture, en musique j'ai un peu fait musique du XXe siècle aussi, et à chaque fois j'ai été obligé de moi-même ouvrir des bouquins, me munir d'éléments pour pouvoir transmettre aux autres.
Et donc il y a ce festival, Les Sons d'une nuit d'été, donc, qui cette année se déroule du 16 au 19 juillet. Alors là, vous allez évidemment me corriger sur la prononciation à Nortalie.
Nortalie. C'est une petite ville côtière au nord de Stockholm, juste à une petite heure de Stockholm, magnifique. C'est un festival qu'on a démarré en 2002 sous des formes absolument presque inexistantes et qui maintenant est devenu un festival d'été très très apprécié en Suède, qui a été portraité à la télévision plusieurs fois. Enfin,
il y a une idée artistique d'ailleurs, ce festival, enfin, une programmation particulière ou...
L'idée était celle d'un festival franco-suédois. J'étais en France, je travaillais en France et puis que je vivais en été en Suède, j'ai une maison là-bas. L'idée c'était de réunir des musiciens français et suédois, puisque j'avais fait la connaissance de pas mal de musiciens français. Je me suis dit ça serait chouette que de les amener en Suède et que les Suédois les entendent, parce que en Suède on n'entend pas énormément de musiciens français. On entend les plus grands, et bien sûr qu'ils sont présents dans les grandes villes en Suède. Il y a des concerts de musiciens classiques français, mais il y a beaucoup beaucoup de musiciens français, très bons musiciens français, qu'on n'entend jamais en Suède. Et là j'avais envie de un petit peu faire un peu la promotion de la culture française et de la musique française en Suède.
Donc, cet album qui vient de sortir chez Naxos, Chamber Music, comporte, on va dire, différentes formes. Également, il y a un côté un peu hommage à chaque fois, puisqu'il y a des compositeurs qui sont cités clairement. Bach, Schoenberg, il y a des sonates pour violon un peu d'inspiration bartokienne, etc. Est-ce que pour vous, justement, de mettre aussi précisément en exergue le nom des compositeurs, est-ce qu'il y a vraiment une volonté? C'est quoi de vraiment montrer le côté de rappeler un peu la suprématie dans l'histoire de la création musicale de ces noms? Quelle est l'idée exactement derrière?
En tout cas je cache pas mes influences et mes origines, quoi. On a tendance peut-être actuellement dans la musique contemporaine de vouloir balayer un peu le passé et de dire moi je fais du nouveau sans référence ou passé. Moi, je ne fais pas du tout mon cas. J'assume complètement toutes mes références du passé, ce qui fait que je n'ai pas honte non plus de dédier une œuvre à Bach, parce que pour la simple raison qu'il y a une inspiration de Bach. Effectivement, dans ma musique, je crois qu'il y a des inspirations d'un peu toutes les époques. J'ai l'impression que je prends... Il y a un petit peu de baroque, il y a un petit peu de classique, il y a un petit peu de romantisme. Je puise un petit peu là où j'ai envie de puiser et j'en fais un tout qui n'est plus directement lié à une époque précise, mais au 21e siècle. Donc c'est une musique qui a un parfum, qui peut parfois avoir un parfum du passé, mais qui, je crois, en elle-même est une entité actuelle, moderne, qui se replace dans notre époque.
Comment vous travaillez avec les interprètes de ces œuvres? Comme ce qu'on disait en début d'entretien, ils ont la chance d'avoir le compositeur sous la main.
Et moi, j'ai la chance de les avoir sous la main.
C'est ce que j'allais dire, voilà, comme les noms qu'on a cités avaient éventuellement autrefois, mais vous avez justement cette change-là. Donc comment s'est déroulé, pardon, puisque pour l'enregistrement du disque...
Moi, j'essaye d'intervenir le moins possible dans leur travail. Dès l'instant que les notes sont écrites, il me semble que j'ai dit ce que j'avais à dire. Et ensuite, il y a une collaboration artistique au moment où les artistes interprètent. Bien sûr que je vais dire que je trouve que ce passage est éventuellement un peu rapide, ou que ça c'est un peu lent, ou que là il faudrait plus entendre le violon, ou que là... De toute façon, cette collaboration-là est quelque chose d'essentiel lorsqu'on écrit de la musique. Je crois que c'est vraiment pour ça qu'on écrit de la musique. Dans un premier temps, pour collaborer avec des artistes, et dans un second temps, pour ensuite se partager ça avec un public, avec quelqu'un qui écoute. Mais la collaboration avec les artistes est vraiment essentielle pour moi. C'est un vrai plaisir. Comme je n'écris pas une musique extrêmement complexe, qui demande énormément d'explications, il me semble que pour les artistes, Ce travail-là, j'ai pas non plus besoin d'intervenir d'une manière trop précise dans leur travail. Ils comprennent assez bien d'eux-mêmes, en lisant la partition, ce que la musique veut dire.
Qu'est-ce que cette collaboration, cette rencontre, ces échanges vous apportent ? C'est-à-dire, vous avez dit, moi j'ai écrit ma partition, mon travail est presque fini, c'est à eux de l'interpréter. Est-ce que vous apprenez beaucoup justement sur votre propre écriture par justement leur interprétation ?
Aussi. Bien sûr, on apprend. Ils vont tout d'un coup jouer quelque chose d'une façon dont je l'avais pas entendu du tout. Ça va me faire comprendre des choses aussi. C'est vraiment un dialogue avec un musicien qui est passionnant, un dialogue qui est absolument passionnant. Mmh. Et s'il y avait pas ça, bien sûr que je continuerais à écrire de la musique. On écrit de la musique parce qu'on a besoin d'écrire de la musique. Mais ce travail-là rend encore plus nécessaire ce travail de mettre des notes sur un papier, quoi.
Est-ce que vous visualisez votre musique, vos compositions ? Parce que certaines œuvres, je pense notamment aux Sextuor à cordes, ont vraiment un côté très... Alors cinématographique, c'est vrai que les compositeurs de cinéma ont énormément emprunté à certains compositeurs... de musique classique, donc il n'y a plus vraiment de frontières par rapport, mais est-ce que certains compositeurs, par exemple, de musique de film, peuvent vous avoir aussi, enfin, ont été aussi importants pour vous ?
Frissonnante comme du Hitchcock et sombre comme du Bergman, ils avaient dit en Suède de la musique que j'ai écrite. Je crois que ma musique est assez cinématographique, et à vrai dire, je vous avais dit tout à l'heure brièvement que ma mère était dans le cinéma, c'était une des égéries de Bergman, en fait.
Quelle actrice ?
Écoutez, elle a même eu le prix d'interprétation à Cannes pour un film qui s'appelait Au seuil de la vie de Bergman. Elle a fait 10 ans, elle a collaboré pendant 10 ans avec lui, et puis elle a fait du cinéma pendant 25 ans. Enfin, je peux le dire que c'était une des comédiennes les plus en vue en Suède des années 50-60. Donc moi j'ai été assez lié avec le cinéma quand j'ai été enfant, et j'avais à un moment de ma vie, je me suis dit, je vais faire de la réalisation. J'avais très envie de réaliser des films. C'est une envie qui n'est pas, d'ailleurs, qui n'est pas complètement partie, puisque parfois, je pense, quand je vois un bon film, je me dis, j'aurais voulu le faire, celui-là. Donc, ma musique, je crois, est assez cinématographique. Pas en ce sens que c'est une musique qui pourrait accompagner l'image, parce qu'on a déjà essayé de mettre la musique sur l'image. Ça ne fonctionne pas parce que ça... prend trop sur l'image, c'est-à-dire que ça envahit l'image. Mais je pense que par contre, en elle-même, cette musique raconte quelque chose et donne des images. Elle est assez, en ce sens, proche du visuel. Et donc, toutes les œuvres que j'ai écrites, en tout cas, moi, j'ai des images assez claires quand j'écris de la musique. Et je pense que ça se transmet assez bien à l'auditeur.
Vous seriez tenté, j'imagine, de travailler éventuellement avec un réalisateur de cinéma pour écrire de la musique avec un support visuel ?
Ça m'intéresserait beaucoup, et je l'ai fait quelques fois d'ailleurs, mais à ce moment-là, il faut que je m'efface un peu. C'est-à-dire qu'il faut que je sois moins loquace, moins bavard, et que je laisse un peu de place pour l'image. Parce que c'est là le propre de la musique de film, c'est de collaborer avec l'image et non pas de prendre le dessus sur l'image. Donc voilà, ça demanderait une adaptation, mais ça m'intéresserait beaucoup de la faire.
Vous avez cité Hitchcock, parce qu'un compositeur comme Bernard Herrmann est quelqu'un qui justement intéresse en termes de composition.
Les grands compositeurs de musique de film sont de formidables artistes. Je pense à John Williams ou des gens. Les très grands musiciens de film sont en haut. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un disque du musicien de Fellini, de
Nino Rota
qui sortait, c'est des musiciens formidables, ça. En écoutant ça, ça m'inspire. D'écrire de la musique de film de cette façon-là, alors vraiment, là, c'est de pouvoir collaborer étroitement avec un réalisateur et de faire quelque chose de commun, où la musique n'a pas simplement le rôle de seconde couche par rapport à l'image, mais participe vraiment à l'action. Là, ça serait vraiment quelque chose de formidable que de pouvoir faire ça.
vous êtes compositeur, pédagogue, directeur de festival, etc. Vous êtes attiré par la musique de film.
Qu'est-ce qu'il me reste Quel temps il me reste pour...
J'allais vous demander, quelqu'un vous rencontre, vous ne connaît pas, vous vous définissez comment Est-ce qu'il y a une de ces activités que vous mettez au-dessus des autres? Est-ce que c'est la composition? Comment vous vous définissez?
Multi-artiste, un peu. Je pense que ça serait la définition. La composition, c'est quand même c'est le moteur essentiel. Mais sans le reste, je crois que si je renonçais à une des activités, je me sentirais un peu comme
pas
si on m'avait coupé un membre.
C'est vrai que la façon dont vous en parlez, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de frontière finalement entre tout ça.
Non, parce que
l'impression que vous avez votre casquette de compositeur, puis votre casquette de...
Oui, mais tout est lié finalement, puisque mes œuvres, je les fais jouer au festival. Le festival, je rencontre les musiciens. L'enseignement me sert à avancer, apprendre des choses pour écrire mieux moi-même. Il y a un lien très naturel entre les différentes choses auxquelles je consacre mon temps, en fait.
Alors la musique des autres, comment vous la consommez, entre guillemets? Est-ce que vous achetez beaucoup de disques? Est-ce que vous allez au concert? Est-ce que vous téléchargez? Est-ce que vous êtes intéressé par... ou pas spécialement? Est-ce que vous avez des phases? Comment ça...
J'ai beaucoup, beaucoup de disques. Je suis passé par plein de phases dans ma vie. Je ne renie aucune musique. Je trouve qu'il y a de la bonne et de la mauvaise musique, c'est tout. J'ai fait du rock, j'ai fait de la chanson, j'ai vraiment fait de tout dans ma vie, je crois. Maintenant, évidemment, depuis quelques années, c'est beaucoup plus la musique classique. J'ai une discothèque qui est trop grande. On a voulu m'offrir un disque tout à l'heure. J'en ai quand même pris un, mais... j'hésite parce que j'ai plus de place. Donc voilà, j'ai énormément de disques de tout style. Beaucoup de musique ancienne, ça va du chant grégorien jusqu'au 21e siècle. Avec un choix, par contre, je n'écoute pas tout. J'ai de nettes préférences pour un compositeur, pour un type de musique. Mais par contre, je consomme énormément de musique. Ouais.
Quels sont vos projets en termes d'écriture? Vous avez déjà d'autres? Est-ce que vous écrivez beaucoup? Est-ce que vous avez, j'allais dire, la partition facile, la plume facile? Ou est-ce que vous avez des phases également?
Non, j'ai pas la plume facile. Je compose uniquement, moi j'ai écrit de la musique uniquement quand je me sens véritablement l'envie de le faire. Quand j'en ai pas vraiment envie, il y a plein d'autres choses à faire pour avancer au niveau de l'écriture. On peut aussi se donner des exercices à faire. Je me mets à écrire des choses à moi seulement quand je me dis là, il faut que ça sorte. Il faut que je le dise. Il faut que j'ai envie de le faire. L'occasion aussi, un musicien qui me dit tiens, tu pourrais pas m'écrire une pièce. J'ai la chance, enfin la seule chose que je demande maintenant, quand j'écris une musique, je n'ai jamais demandé à être rémunéré pour écrire de la musique. C'est pas les commandes, j'ai jamais eu de commandes pour écrire. Mais par contre, quand un grand musicien, un très bon musicien me dit est-ce que tu voudrais pas m'écrire une pièce, là ça me fait réagir, parce que la seule chose que je demande, c'est d'être bien joué. Et vous me direz, c'est un minimum pour un compositeur, mais c'est pas toujours le cas. Donc je suis très... là, par contre, ça me motive énormément. Donc j'écris assez peu. Là, mes projets dans l'immédiat, c'est d'aller vers quelque chose de plus orchestral. J'ai très envie d'écrire pour orchestre. Donc je voudrais faire un disque consacré uniquement à l'orchestre. Ouais. Ce qui est un gros projet, c'est long à écrire des pièces pour orchestre, et puis il faut trouver des orchestres avec lesquels collaborer, enfin c'est un gros boulot. Mais moi j'aime bien m'imposer des délais assez longs. Je suis devenu extrêmement patient avec le temps. Quand j'étais jeune, j'étais impatient. Je pense que c'est normal. Maintenant, plus je vieillis, alors que j'ai moins de temps, finalement...
La sagesse.
Voilà, la sagesse m'a fait devenir extrêmement patient. Et maintenant, je fais des projets sur 4, 5, 6 ans. J'aime bien, comme ça, me projeter dans l'avenir. Écrire aussi un autre bouquin sur d'autres sujets qui m'intéressent. Deuxième festival, non, je ne vais pas en créer. Mais par contre, j'aimerais maintenir celui-là, le plus longtemps possible, en tout cas. Voilà, Et puis, on s'est continué l'enseignement, continuer à peut-être enseigner aussi d'autres choses dans l'avenir. Apprendre, tout le temps apprendre. Moi, j'ai envie, enfin, moi en tant que personne, j'adore apprendre. Pas seulement dans la musique, d'ailleurs, tout. L'idée qu'on peut toute la vie, finalement, avancer et apprendre des choses nouvelles me motive beaucoup pour l'existence. Je trouve que c'est quelque chose de formidable. Et la musique est un océan absolument insondable. C'est infini. On peut apprendre jusqu'à la fin de sa vie. Il y a toujours des choses où on entend, où on se dit « Ouf, si je savais faire ça !»
Quels sont les confrères, j'allais dire les compositeurs de musique contemporaine qui vous touchent actuellement ? Est-ce qu'il y a des noms qui...
J'ai des noms au XXe siècle m'ont énormément dans ma musique impressionné. C'est pas forcément que ma musique ressemble. Vous parlez de Bartok tout à l'heure. C'est vrai qu'on dit souvent que ma musique est post-bartokienne, Prokofiev, toute cette Stravinsky, toute cette génération là. Moi, je suis très très proche quand j'écoute, en tout cas de gens comme Lutoslav, comme Dutilleux, comme Ligeti, Courtag. J'ai plein de compositeurs. Et puis alors, j'en ai un, c'est pas parce qu'il vient du Nord, mais qui est un peu un modèle dans ma génération, je trouve, que c'est Magnus Lindberg, qui est un Finlandais et qui écrit formidablement bien pour orchestre, notamment. Donc j'ai des modèles, j'ai des gens à qui je voudrais non pas ressembler, mais en tout cas qui sont un peu des phares pour continuer à avancer, quoi.
Vous avez dit tout à l'heure, quand on a parlé du rapport entre le compositeur et l'interprète, vous avez parlé d'être joué, donc j'imagine que comment intervient le public là-dedans, c'est-à-dire donc composer, interpréter et donner cette musique, enfin l'offrir à des oreilles, à des yeux parfois aussi. Comment intervient dans votre réflexion, dans votre côté un peu multifacette, ce côté justement le public ?
Avec le public, le public, je trouve que le public doit être le plus projeté, se projeter le plus possible dans la musique qu'on écrit. Le disque, par exemple, ce disque de musique de chambre a été conçu de manière à ce qu'on puisse se sentir un peu au concert. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut écouter ce disque d'un bout à l'autre sans sortir d'un univers sonore qui en fait vous tient du début à la fin. C'est pour ça que moi, je trouve que la meilleure façon quand même de communiquer avec le public, c'est le concert. Ça reste le live, d'être joué en vrai et d'avoir la réaction directe du public. Mais si on fait un disque, ce disque doit le plus correspondre possible, en tout cas correspondre à cette ambiance du direct. Et il me semble que dans le cas du disque là que je sors, c'est assez réussi à ce niveau-là.
Merci David Lampel, on vous souhaite donc un bon festival d'ici trois semaines à moi, donc le 16 juillet dans la ville dont je ne reprononcerai pas le nom, parce que vous le prononcez mieux que moi, Nortelje.
Eh bien, je serais ravi que les Français viennent d'ailleurs à Nortelje, on va dire, voilà, en français, mais ils peuvent tout à fait visiter lessondunuitdete.com, qui est notre site, pour avoir des renseignements. Il y a une petite partie consacrée qui est en français, et je serais ravi que les gens viennent de France aussi, découvrir un peu la Suède en été, parce que je peux vous dire que c'est un pays extrêmement accueillant et qui est génial en été. Les étés, là, le festival, c'est au bord de la mer, c'est dans des vieilles églises, des châteaux, des vieux châteaux, des endroits absolument magnifiques. C'est une des plus belles régions de Suède, en plus. Il y a 17 000 îles, enfin, c'est extraordinaire. C'est un endroit absolument magnifique. Donc, n'hésitez pas à vous rendre à Nortelje pour écouter de la belle musique cet été.
Merci David Lampel.
Merci Marc.
Thank you.
marxisme.com. Rencontre par Marc Zisman.